Allô, oui, bonjour. Je vous appelle à propos de l'émission de vendredi là sur l'orgasme. C'est absolument honteux à des heures d'audience comme dans l'après-midi de passer des émissions sur ce thème. Je pense vraiment que France Inter, il part vraiment du très mauvais côté et que quand le président sera remplacé, comme ça devrait être au mois de mai, votre émission passera à 3h au matin. Ce sera l'heure idéale pour passer toutes vos cochonneries et vos imbécilités de gauchistes analphabètes. Voilà. Je vous remercie. C'était Gaëtan de Douai. Merci.
Bonjour, c'est Sophie Chéher à Toul. Voilà, j'écris une lettre à l'évêque d'Orléans. Monseigneur, c'est après avoir entendu sur les ondes votre intervention au sujet du préservatif que j'ai décidé de vous écrire cette lettre. Étant une chrétienne pratiquante, j'ai toujours trouvé les interventions de l'Église concernant la sexualité bien vagues et peu éclairantes. Notre berger laissait son troupeau, sur ce point, errer un peu à l'aveuglette. Enfin, l'Église prend, si j'ose dire, les choses en main. Enfin, une réflexion précise et circonstanciée sur le préservatif, devant laquelle médecins, ONG et autres prix Nobel ne peuvent que s'incliner. Votre discours m'ayant totalement convaincu de votre compétence dans le domaine de la sexualité, c'est à vous que je choisis de demander un conseil. Mon mari et moi désirons égayer nos débats intimes, uniquement destinés à agrandir notre famille déjà nombreuse, je tiens à le préciser, par des accessoires. Mais nous ignorons tout de ce que l'on appelle, je crois, les sex toys. Pouvez-vous me renseigner à ce sujet? Pouvez-vous m'indiquer en quelques mots les plus performants et les plus intéressants? Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Monseigneur, l'expression de mes sentiments les plus chrétiens.
Alors, c'est Hermine. Écoute, Daniel, je suis une MGD de droite, et je voulais te dire, parle-nous de cul, c'est encore ce que tu fais de mieux. Oublie la politique, Daniel. Ça nous fait bien plaisir de te retrouver. Allez, salut, à plus tard.
Salut Daniel, je t'appelle en direct de l'évacuation de la fac de sciences humaines de Strasbourg. On se fait sortir, il est 5h30 du matin, on se fait sortir par mesure de sécurité à l'approche du sommet de l'OTAN, bras armé du capital, capital qui menace ici l'éducation, le savoir, nos vies futures et les générations prochaines. Les points sont dressés, la rage et l'insurrection sont là. Salutations à tous les camarades, la lutte ne fait que commencer.
Oui, salut Daniel, donc on est deux étudiants, on t'appelle pour te faire part de notre indignation. Donc ça fait plusieurs semaines que l'université de Pau est bloquée pour s'opposer aux réformes du gouvernement. Et on a remarqué que plus ça va et plus les manifs dégénèrent, donc la police, elle a clairement reçu l'ordre de tous ces mouvements, et elle provoque, elle menace, elle matraque et elle gaze. Trois jeunes étudiants syndiqués se sont fait violemment arrêter au cours d'une manif pacifiste la semaine dernière, et hier soir encore, alors qu'on faisait une soirée dans une asso occitane, on a eu la joie de voir trois camions de flics arriver et sortir des bombes lacrymo alors que la soirée s'est déroulée très très bien. Donc voilà, stop à la répression, faut que ça sache, faut qu'on en parle et... faut plus rester les bras croisés, donc voilà. Merci encore pour ton émission et on t'embrasse.
Voilà, ce matin, Monsieur Fillon était présent au parc du 26e centenaire à Marseille. Alors, avec quelques autres étudiants, on a eu envie d'aller manifester pour attirer l'attention des médias sur notre combat qui dure depuis 7 semaines. Alors qu'on marchait sur l'avenue du Prado où se tenait le marché, on s'est fait intercepter par les CRS et la police nationale. On nous a dit qu'il s'agissait d'un simple contrôle d'identité, mais ils ont fini par nous embarquer petit à petit par groupe de 5, pour ne pas inquiéter les passants qui commençaient déjà à être assez révoltés de ce qui se passait. Je dois rendre justice par rapport aux dernières émissions sur les gardes à vue, aux policiers et aux CRS qui m'ont escorté, car ils ont été plutôt sympathiques avec moi. Néanmoins, je peux souligner que lors de la prise de ma déposition, j'ai expliqué que comme ma carte d'identité était en règle, ils n'avaient pas le droit de m'emmener au poste dans le cadre d'un simple contrôle d'identité. Et le brave monsieur en face de moi a tout simplement avoué que notre arrestation était plutôt due à une volonté politique d'éloigner les manifestants qu'à un simple contrôle de routine. Alors Daniel, c'est ce qui se passe lorsque les étudiants sont obligés d'aller vers les médias pour que cette lutte soit couverte. Il serait peut-être intéressant que toi et ton équipe vous passiez rapidement nous voir, car sinon il sera trop tard et il restera plus qu'à pleurer sur les facs qui étaient ouvertes à tous et qui avaient un sens critique parce qu'elles ne seront plus. Voilà. C'était Liselotte Nguyen, étudiante à la fac de Saint-Charles à Marseille. À plus et on espère vous voir.
Salut Daniel, salut à tous. J'arrive sur Marseille au boulot, des entreprises privées en grève, des étudiants aux escaliers de la gare Saint-Charles en AG en grève. Je passe devant l'école de formation des instituts en grève. Et je crois que tout ça, ce mouvement social, tout le monde y participe et tout le monde va de l'élan et de l'allant même, sauf nos têtes des syndicats. Et je crois en rêver. Pourquoi ne pas faire un appel citoyen? Un appel qui viendrait de la rue, un appel qui viendrait des entreprises, des lycées, des centres de formation, au-delà des têtes syndicales, parce que je pense que les syndicats sont prêts aussi à participer. Voilà, donc rêvons à cet appel citoyen et à une grande journée de mobilisation sans attendre leur petit 1er mai où ils défileront en tête, ravis d'avoir serré la main à Monsieur Sarko. Donc, promis, je me mets au travail dès aujourd'hui. Salut à tout le monde.
Bonjour Daniel et toute l'équipe de la Bassie J'y suis, c'est Thierry. Ce matin, j'ai entendu sur France Inter l'évocation de la notion de code éthique du MEDEF. Alors je me posais une question, est-ce que c'est pas là un bel exemple d'oxymore? On pourrait peut-être le mettre au sujet du bac sur le droit social par exemple, si des étudiants peuvent plancher là-dessus, ça serait amusant. Allez, merci, au revoir.
Eh bien, ça tombe bien parce que c'est notre sujet du jour. Oui, on va revenir au Salon de l'investissement. C'était en novembre dernier, mais pas seulement au Salon de l'investissement. On va aller aussi à Sandouville, avec les ouvriers de Renault. Pourquoi donc? Eh bien, pour apporter une modeste et géniale contribution à ceux qui, de plus en plus, vous les entendez, entendent refonder le capitalisme, apporter dans ce capitalisme, eh bien, effectivement, de l'éthique, de la morale et des limites, des limites. Alors, mais peut-être que le reportage du jour leur donnera des idées, leur donnera des modèles, soyons modestes, mais enfin, peut-être quelques exemples. C'est ce que nous souhaitons. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel. Eh ben, vendredi dernier, il était où notre petit président? Il était au Niger. Et qu'est-ce qu'il faisait au Niger? Avec sa grande copine et notre grande amie Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, il était en train de négocier de l'extraction d'uranium, voilà, pour les 15 ans à venir. Et c'est ça la dépendance énergétique de la France, c'est-à-dire qu'on va acheter de l'uranium au Niger, à Kadhafi, et on est obligé de faire des ronds de jambes à des crapules pour l'indépendance énergétique de la France. Parce que c'est ce qu'on nous dit à longueur d'année, depuis des années, l'indépendance énergétique de la France, c'est le nucléaire, c'est l'indépendance. Mais on n'a plus d'uranium, alors pour faire fonctionner nos centrales, on est obligé d'aller acheter de l'uranium ailleurs. Et d'ailleurs, le 5 février dernier, lors de son dernier show médiatique, notre Sarko avait dit une petite phrase assez étonnante, que personne n'a relevé évidemment, où il disait, écoutez, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole, alors on est bien obligé de se lancer dans le nucléaire. Mais on n'a plus d'uranium depuis 30 ans dans ce pays. Donc de toute façon, on n'a plus de ressources. Alors pourquoi se lancer dans le nucléaire? On se le demande. Donc l'indépendance énergétique de la France, c'est faux, ça n'existe plus. Donc le nucléaire, c'est franchement se foutre de notre gueule que de nous faire croire qu'on est indépendant avec le nucléaire, une fois de plus. Salut, au revoir.
Urgence, appel contre une expulsion d'un jeune Chinois en situation irrégulière. Il a été arrêté mardi. Il était en centre de rétention. Les procédures de recours et d'appel ont échoué. Il va être présenté le mardi 31 à l'ambassade pour un laissez-passer. Réunion lundi à 18h dans le 20e arrondissement à l'école Riblette, rue Riblette. Venez tous pour aller à la mairie du 20e, lundi 30 à 18h, rue Riblette, Paris 20e. Ne laissez pas le petit garçon de 7 ans se séparer de son papa. Merci.
Oui, dis donc Daniel, dimanche matin à 9h30, j'ai cru que là-bas si j'y suis avait changé d'horaire. En fait, c'était l'excellent reportage de Benoît Colomba sur l'Empire africain de Vincent Bolloré, l'ami du président. Mais du coup, je m'interroge avec un peu d'inquiétude, n'a-t-on pas assisté là un baroud d'honneur ou un bouquet final avant la reprise en main de France Inter en mai 2009. Et si ce n'est pas le cas, on pourrait continuer avec Bernard Arnault, le témoin de mariage de Nicolas et de Cécilia, qui en juillet 2008 a fait main basse sur le groupe Carrefour, le numéro 2 mondial de la grande distribution, bien connu de nos amis guadeloupéens.
Alors, ils ne sont pas merveilleux, nos économistes néolibéraux, les Marseille, Bavrez, Mac. De toute façon, 95% des économistes sont néolibéraux. Les 5% restants, on ne leur donne pas la parole, car c'est ou le néolibéralisme ou le communisme. Entre les deux, rien. Alors oublions la coopérative, la mutuelle, l'association. Admirons ces économistes médiatiques qui ont le courage de ne pas se faire tout petit, de ne pas s'excuser, de ne pas se taire, alors que pourtant, ils nous ont menés à la catastrophe. Mais ils continuent de pérorer à la télé, à la radio, dans les journaux. Voyez Strauss-Kahn qui pontifie sur France 2. Il a oublié que c'est lui, sous Jospin, qui a exonéré d'impôts les fameuses socoptions. Ça coûte une fortune aux contribuables. Ni Le PS ni Sarkozy, qui l'a fait nommer directeur du FMI, ne vont le lui rappeler. Voyez l'excellent directeur des études économiques de Natexis. Voici un gars qui, avec d'autres incompétents, a planté sa banque de plusieurs milliards d'euros. Nous donnons tous, vous et moi, des milliards pour sauver sa boutique. Eh bien, ce génial directeur des études économiques de Natexis est régulièrement interviewé à longueur de page dans Le Monde, comme si de rien n'était. C'est la prime aux experts incompétents mais médiatiques. Le néolibéralisme va continuer après un ou deux aménagements à la marge. Oubliez donc la coopérative, la mutuelle, l'association. Il n'y a pas d'alternative à la sacro-sainte concurrence, puisque les experts vous le disent. Salut, Thierry de Lyon.
Voilà déjà 2 ans que j'ai retourné mon certificat de baptême au Vatican. Je ne sais pas si c'est arrivé, ce n'est pas le problème. Je voulais dire à toutes les personnes qui seraient intéressées, catholiques ou pas, d'aller à la messe le dimanche avec un préservatif sur la tête en criant « à bas la calotte ». Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie de Biarritz.
Vous savez, la crise, elle touche pas tout le monde, hein, malgré tout. Hein. Nous, on n'a pas de clients qui se trouvent, qui ont perdu leur boulot. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est vraiment de se dire, profitons de la crise.
Il fallait pas se faire de soucis pour nous. Parce que, en fait, nous, comme on est des brokers, nous, on gagne notre argent à chaque fois qu'un ordre passe. Les affaires sont bonnes pour nous, quoi. On gagne de l'argent.
Profitons de la crise.
Donc les affaires sont bonnes.
T'es à zéro, là?
Moins. Je suis à moins, même. Je suis pas à zéro, je suis à moins.
Ceux qui veulent investir en bourse, c'est vraiment le moment d'en profiter. Il y a je ne sais plus quel milliardaire américain qui disait « J'ai l'impression en ce moment d'arriver dans une confiserie dans laquelle il y aurait des bocaux et dans laquelle tous les bonbons seraient gratuits. »
Ah, je vais les triper.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis, avec François Ruffin. La beurre et les épinards.
Flight number 2, arriving from New York.
J'entre en ce moment à Nice, au Forum de l'investissement. Passe devant Fortuneo, propose des SICAV, passe devant la consultation des notaires, on passe devant Raymond James Patrimoine, passe devant Saxo Bank, trading multiproduits, passe aussi devant l'ANACOFI, l'Association nationale des conseils financiers, qui allie, c'est marqué sur des panneaux en bois, déontologie et indépendance. Et tous ces gens-là peuvent nous aider à faire le point, comme l'indique le dossier de presse, sur les attitudes à adopter face à ces turbulences boursières, bancaires et immobilières. Parce que, et je cite toujours le dossier de presse, dans cette nouvelle dynamique baissière, il y a de nouvelles opportunités à saisir. Bonjour. Là, se déroule en ce moment un forum intitulé « Comprendre la crise ». Comprendre la crise pour choisir les actions à fort potentiel de rebond.
Ils sont capables de trouver des milliards pour sauver le système bancaire, mais il refuse de dégager 100 millions, 200 millions, 300 millions pour la santé, pour l'environnement, pour l'enseignement et voire même pour relancer l'activité économique. Cette phrase-là, ce que je viens de dire là, c'est actuellement dans toutes les bouches, sur toutes les lèvres, tout le monde répète cette phrase-là. Parce que tout le monde constate ce qui se passe actuellement, pas seulement dans notre pays. Le sentiment d'injustice augmente, partout la colère, partout les poings se serrent. Partout, peut-être pas partout. Si vous étiez au salon de l'investissement à Nice, ben, il y a des gens qui sont pas si malheureux que ça, pas si coléreux que ça, et pour qui tout ça se passe plutôt bien, voire même plutôt très bien. Du côté de l'investissement, du côté des financiers, du côté des traders, du côté de tout cet univers, ce monde-là, ça se passe pas mal. Faut-il rappeler 320, 340 milliards de garanties, 10 milliards d'euros de prêts rémunérés, mais c'est quand même là un énorme soutien, et on le sait, sans contrepartie, sans garantie, sans contrôle, de quoi sourire et de quoi effectivement avoir la banane. Mais cette banane-là, on l'a pas forcément si l'on va à Sandouville parmi les ouvriers, les salariés de Renault. Alors on va aller de l'un à l'autre au cours de cette heure. Avant de partir pour ce voyage, je voudrais évoquer Christian Wulff. Christian Wulff, c'est un haut dirigeant de la CDU. La CDU, vous le savez, c'est le parti d'Angela Merkel. Et Christian Wulff a affirmé à la télé que les grands patrons montraient du doigt pour leur salaire, leur parachute doré, leur stock option, etc., ce qui est souvent le cas dans la base si j'y suis, eh bien, ces grands patrons sont victimes, et a-t-il dit, victimes d'un climat de pogrom. Et il a dit ça à la veille du 70e anniversaire de la nuit de cristal. Ça a un petit peu ému nos voisins allemands. Il a été obligé de faire des excuses publiques. Christian Wulff, c'est un personnage important sur la scène politique allemande. Voilà que critiquer les patrons, se demander comment ils font pour gagner autant d'argent, devenait, dans son esprit, domaine de l'antisémitisme, tout simplement. Voilà jusqu'où peut aller le désarroi et les errements des uns et des autres. Ça va pas nous arriver à nous, puisque nous allons à Nice savoir quoi faire de notre argent, et puis voir ce que deviennent aussi les perdants. Il y a des gagnants et des perdants, vous le savez? Non, pas tout à fait. Alors restez avec nous jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, la beurre et les épinards.
Their wealth is our poverty. Their wealth is our poverty. Their wealth.
Ils sont riches parce que nous sommes pauvres.
We got Americans with families can't even buy meals.
Ask a brother who's been downsized if he's getting any.
Demande à ton pote dont la boîte a été restructurée s'il a touché le pactole.
Ask a brother who's been downsized if he's getting any.
Question of class.
What's class got to do with this?
Ce n'est pas une question de classe. Le thème des classes sociales ne fait pas vraiment partie des discussions de tous les jours dans la vie politique américaine. À l'ombre de la bombe atomique, tout est cassé, rien ne fonctionne. Pourtant, toute cette merde, j'ai bien dû la payer. Une meilleure vie que ça, ça doit bien exister. Ah, le bonheur américain, mais c'est pas vraiment le pied. Et j'y vois pas clair, comme tous les copains qui se font défoncer la gueule. Tu travailles si tard qu'à la fin tu t'écroules. Et tu gagnes quoi? Une, deux pièces? Pas vraiment le bon deal. Mais je travaille toute ma vie pour finir le mois. Mais je travaille toute ma vie pour leur payer le foie gras. Il faut bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois.
Someone's gotta pay. Someone's gonna pay.
Il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Que ce soit moi ou le type en bas de la rue, un gamin de Tijuana ou une maman au Ghana, il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. La société est divisée en classes. Il y a des gens qui travaillent très très dur et qui gagnent très très peu. Et il y a des gens qui ne travaillent pas trop dur. Et quand ils travaillent, il n'y a finalement que des ennuis pour nous autres. Ce qu'ils produisent, c'est dangereux.
Donc est-ce que vous avez un PEA ou...
Pardon ?
Est-ce que vous avez un PEA ?
D'accord. Alors comment vous placez votre argent ? Vous n'avez pas d'argent ?
Je ne sais pas si j'en ai assez pour faire appel à un gestionnaire.
Un conseiller en gestion de patrimoine.
Un conseiller en gestion de patrimoine.
D'accord.
Mais j'ai un plan épargne logement.
D'accord.
Et j'ai un livret A.
D'accord. Vous savez combien vous rapporte votre PEL à peu près ?
Pas du tout.
Donc un PEL vous rapporte à peu près du 4%.
4%?
Voilà. Parce que vous n'allez même pas avoir la prime de l'État, donc vous allez vous retrouver à 3,75%.
Moi, je viens ici, je me demande si, en un sens, les gens qui ont placé en action, ils sont pas en train de pleurer, vos clients, ils sont frappés par la déprime, ils prennent des cachets, ils vont pas au Secours Populaire pour des bons d'alimentation et puis tout ça quand même.
Non, parce qu'un portefeuille bien géré est un portefeuille avec une partie de cash. Donc c'est sur cette partie-là que s'ils ont des besoins financiers, on va pouvoir agir et revendre sans perte.
Donc leur train de vie, ils ne sont pas touchés directement aujourd'hui par les chutes des bourses?
Non, ils ne sont pas du tout touchés puisque nous, comme je vous ai dit, on a prévu les liquidités pour eux, à titre personnel. C'est-à-dire qu'ils ont leur livret, ils ont leur compte banque, ils ne peuvent même pas être bloqués.
Et alors après, il y a la psychose. Par exemple, on a eu le cas d'une cliente la semaine dernière qui nous a téléphoné, qui est propriétaire de son appartement, qui a une retraite confortable, qui a 600 ou 700 000 euros placés chez nous, et qui nous a dit « Écoutez, monsieur, moi aujourd'hui, je suis inquiète, je peux plus m'acheter de chaussettes. »
Moins 3,42 le CAC.
Ça, vous le regardez sur votre... Comment ça s'appelle ce machin-là ?
L'iPod. Moins 6,53 Nikkei.
Il y a un prix de l'innovation tous les ans qui est attribué dans ce salon.
Ouais.
L'an dernier, le prix de l'innovation, il était... Moi, je n'y connais rien. Mais un truc qui s'appelle SGAM. Ça vous dit quelque chose ?
Ouais.
J'ai vu ce contrat qui a reçu le prix de l'innovation l'an dernier. Il a perdu 52,5% en un an.
Il a perdu 52,1% en un an, ce contrat. Il a été dévalué. Simplement, vous avez les clients qui ont souscrit à ce genre de fonds ont touché des coupons.
Chez Raymond James, patrimoine, on en a mis.
Et les gens qui ont passé là-dedans,
beaucoup de temps à expliquer. À réexpliquer après. Parce que c'est pas facile à comprendre. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ils se disent on est à moins 50. Il y en a même qui sont descendus à moins 60. Hein. Pourquoi vous nous dites que mais on n'a pas perdu notre argent ? Parce qu'ils n'ont vraiment pas perdu. C'est contractuel. Simplement pour un client, c'est pas évident à comprendre.
Mais quand on regarde sur le long terme, le CAC 40 a été créé en 87-88, je crois. Il y a eu une multiplication par 3,4 en 20 ans. C'est quand même pas mal.
Vous faites le ratio, 300% sur 20 ans, ça fait 15% par an.
Donc il n'y a aucun risque. Si on a placé chez Raymond James Patrimoine ou si on a placé en bourse une partie de son capital et puis tout ça, de se retrouver à la soupe populaire.
Chez Raymond James, non. Puisque ça représente une partie du patrimoine du client.
Ouais. Bien, je vais vous prendre un peu de littérature.
C'est la plaquette de présentation.
Je devrais pas vendre mon Kangoo, mais ça me revenait trop cher.
Alors là, Fabrice, on a grimpé dans ta voiture, on est arrivé en gare du Havre.
Ouais.
Et là, on est sur la route entre Le Havre et Sandouville. Dans ta voiture, une 205 grise qui a 102 480 km au compteur.
Peugeot. Une Peugeot, ouais, j'avais une Kangoo jusqu'à il y a 15 jours. Un beau Kangoo tout jaune qui avait 2 ans. En fait, j'avais un crédit important dessus. Et vu les pertes de salaire maintenant du au chômage chez Renault, j'ai préféré la revendre. Et puis j'ai une 205 de 1988. Que j'ai payé une petite centaine d'euros. Et puis moi, ça a bien me dépanner pour aller au boulot pendant, Tout l'hiver, j'espère.
Première ligne. Ils sont aux premières lignes, les gars de Sandouville, de Renault à Sandouville. Première ligne face à la crise. Elle arrive, elle est là, ils la connaissent et ils la vivent très loin de Nice et de son forum de l'investissement. On est avec Fabrice dans sa Peugeot.
Bah là, la perte de salaire estimée pour les mois à venir, je vais perdre entre au moins 300 euros de... Sur un salaire avec des primes, moi j'ai 10 ans d'ancienneté, enfin à peu près 1500 euros par mois quoi. Bon, si tu m'enlèves 300 euros, je retombe à 1002, je retombe au SMIC, je reviens 10 ans en arrière. Donc j'ai un loyer à payer, j'ai des enfants que j'avais pas il y a 10 ans forcément. Et j'ai été embauché en décembre 2000, donc là ça fait 8 ans que je suis embauché sur Renault. Ça a bien changé en 8 ans, ça a bien changé quoi. Au début, j'étais à la chaîne, mais une chaîne de retouche, donc le travail qui était assez propre. Puis, ce qui va être sympa quand même, c'est que il y avait des trous de temps en temps. On appelle ça des trous, c'est-à-dire les bagnoles. Il y avait des arrêts, quoi. Donc la chaîne tournait, mais il n'y avait pas de bagnole qui sortait. Et ça nous permettait, quand on avait des trous comme ça, de faire des mots croisés, de lire le journal. Il y a même une camionnette qui passait pour vendre le journal, quoi, qui vendait des croissants pour la pause. Enfin voilà, il y avait. Et il y avait des moments où on pouvait respirer. Maintenant, c'est productivité à tout va. Les gars, ils sont engagés à plus de 100%. C'est-à-dire que t'as même plus de temps mort, quoi. T'es sur ton joint de mastic ou sur ta visseuse. Et puis voilà, quoi, le mec, il a pas de temps mort, quoi. Il a pas le temps de souffler. Alors, auparavant, on pouvait même certains endroits fumer. Le mec, il fumait en chaîne. C'est interdit, ça c'est la loi, hein, c'est une chose. Mais bon, voilà, le mec, il pouvait mettre le mégot à la bouche et puis... respirer, je sais pas si on appelle ça respirer quand on fume. Mais bon, voilà, ça faisait un temps, le mec, il pensait à autre chose. Il y avait des moments qui étaient bien, quoi, qui étaient sympas.
Et là, donc, concrètement, toi, cette perte de salaire, ça s'est traduit par un changement de véhicule. Ça, tu penses que ça va se traduire par d'autres choses aussi?
Après, il y a les courses. Avant, j'allais dans les magasins traditionnels... Là, c'est Auchan, ça peut être Carrefour, des trucs comme ça. Là, je privilégie le discount, Leader Price, Aldi. Et puis, il y a plein de trucs qu'il faut revoir aussi. J'ai inscrit mes enfants. Mon fils fait du baby gym, ma fille fait du cirque.
Du baby gym?
Ouais, du baby gym, ouais. Ouais, c'est pour l'épanouissement. Il a 3 ans, donc
Il fait le poirier à 3 ans?
Presque, presque. Ouais, non, mais c'est épanouissement, enfin, découvrir son corps, apprendre à grimper avec ses petits copains, c'est sympa, mais bon, forcément, ça a un coût aussi. Donc là, cette année, j'ai payé parce que voilà, je veux pas priver mes enfants d'activités sportives. L'année prochaine, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire, quoi.
La France est une république qui croit depuis l'origine que l'on ne peut pas vivre sans règles, sans valeurs. Et d'une certaine façon, sans morale. Oui, nous croyons au mérite qui seul légitime les ambitions. Oui, nous croyons au travail sans lequel on ne fait rien de sa vie. Nous croyons à l'effort qui donne du sens à l'existence. Nous croyons à la justice qui permet de respecter un ordre sans lequel il n'y aurait que la loi de la jungle.
Ah ! Je vais les triper.
Monsieur Levard, vous êtes le directeur de Raymond James Patrimoine.
Oui, d'accord.
Christine Lagarde est intervenue au Salon Forum de l'Investissement à Paris.
Oui.
Et dans son intervention, elle dénonçait la trop grande innovation dans les produits financiers. Ici, il y a un prix de l'innovation. J'ai regardé à qui étaient allés les derniers prix de l'innovation. Il y a 3 ans, c'était à la Société Générale. Il y a 2 ans, c'était la Caisse d'Épargne. Et l'an dernier, c'était un produit qui s'appelle le SGAM, qui a perdu 52% en un an. Enfin, est-ce qu'il faut continuer à promouvoir cette innovation financière? Est-ce que finalement, des petits salons comme ça, c'est comme si ça avait participé d'un discours dans l'air du temps, d'un discours un petit peu idéologique de « n'ayez pas peur d'aller sur les marchés, n'ayez pas peur de trader online, il faut que ça se démocratise ».
Si, on s'est peut-être un peu fourvoyé nous aussi là-dedans, en proposant des produits un peu sophistiqués à des clients. Quand vous êtes sur des produits avec des dérivés, avec des marchés, avec des options, avec un certain nombre de produits très sophistiqués à l'intérieur, il y a un moment où on n'est pas ingénieur mécanicien, objectivement.
Alors, est-ce que les gens ils se méfient aussi un peu des conseils? Parce que j'ai mauvais esprit, mais j'ai sorti la revue de presse de l'an dernier. Et je suis tombé sur cet article. Le titre, c'était « C'est le moment d'acheter en bourse », il y a un an.
Oui, alors c'est sûr que ce conseil-là, il est un peu malheureux à court terme. Hein. Bon, quand on achète en bourse, on n'achète pas pour un an. Il faut rester toujours dans cet esprit-là, que sur du long terme, on est gagnant en bourse.
Vous avez discuté un petit peu avec...
Aujourd'hui, les gens sont, les particuliers sont assez sereins malgré tout. Voilà, maintenant, nous, ce qu'on essaie, c'est de faire enfin passer un petit peu de pragmatisme et d'optimisme en leur disant, bon, après une crise, il y a une fin de crise et qu'il faut être prêt à savoir en profiter. Vous savez, la crise, elle touche pas tout le monde, hein, malgré tout. Hein. Nous, on n'a pas de clients qui ont perdu leur boulot. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est vraiment de se dire, profitons de la crise.
Voilà, ça fait du bien d'entendre des nouvelles comme ça. La crise, c'est pas tout le monde. Profitons de la crise, etc. Et vous dites, oui, mais quel rapport peut-il y avoir entre, effectivement, ce forum de l'investissement qui se tenait, à Nice, à l'Acropolis du 6 et 7 novembre, et puis la misère qui arrive, qui tombe sur les gars des ouvriers de Renault à Sandouville. Eh bien, il y a un lien, il y a un détriment. Balzac le disait déjà dans Splendeur et misère des courtisanes. Tout accaparement nouveau représente une nouvelle inégalité dans la répartition générale. Or, depuis des années, on nous garantit, on nous dit, mais non, si les uns s'enrichissent, ça profite à tout le monde. Quand la mer monte, tous les bateaux montent, on nous le dit depuis des années, du matin au soir, et c'est devenu une certitude. Or, l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, qui est un organisme qui a beaucoup fait pour répandre justement ce dogme et faire avancer les politiques néolibérales, les déréglementations, etc., etc., eh bien, vient de publier un rapport sur les inégalités qui révèle, et c'est très important ce rapport, qui révèle que les inégalités et la pauvreté s'accroissent dans les pays de l'OCDE. Ce rapport est intitulé « Croissance et inégalité » et il indique au cours des 20 dernières années, la croissance économique a davantage bénéficié aux riches qu'aux pauvres. Dans certains pays, notamment l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Finlande, l'Italie, la Norvège, l'écart s'est également creusé entre riches et classe moyenne. Or, je le répète, depuis 20 ans, on affirme que la mondialisation est un processus gagnant-gagnant. On continue de le répéter. C'est pas, la crise ne vient pas, pourtant c'est éclatant, mais quand même, les dogmatiques, les missionnaires du néolibéralisme continuent du matin au soir à répéter la même chose. C'est un processus gagnant-gagnant. L'enrichissement de certains profite à toutes les catégories. Il y a des retombées, etc., etc. Or, ce rapport montre que tout ça est simplement faux. Il s'agit d'un mensonge qui est devenu une certitude. Si au moins cette crise pouvait permettre de mettre ça en cause, ce serait déjà beaucoup. On continue donc dans ce salon de l'investissement à Nice.
On va rentrer dans le débat. Soirée spéciale destinée aux assujettis à l'ISF. Profession libérale et directeur du pays.
Pour lequel nous avons réuni pour vous des spécialistes très compétents en matière de gestion de fortune. Donc on va parler d'un gros sujet dont on a énormément parlé ces derniers temps, c'est le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal...
Rue de la Bordère, en bordure du bois de Boulogne à Neuilly. La rue des grandes fortunes.
France 3.
La ville dont Nicolas Sarkozy a été le maire compte la plus forte proportion d'assujettis à l'ISF.
3 août 2007.
Et au marché, quand on aborde la question, on touche une corde sensible.
Si vous pouvez supprimer l'ISF, ça m'arrangerait.
On est sous le règne de l'Inquisition avec l'ISF.
Mais pour les aider à payer moins d'impôts, des conseillers fiscaux ont écrit le guide du bouclier fiscal. Un bouclier qui sera encore plus protecteur puisqu'il prévoit que désormais, la somme des impôts ne puisse dépasser 50% des revenus.
Avec l'abaissement de ce seuil, on va permettre aux gens qui étaient entre, je dirais, 1 million d'euros et 4 millions d'euros de pouvoir aussi alléger leurs notes en termes d'ISF.
Mais le bénéfice du nouveau bouclier fiscal sera surtout concentré sur les très grosses fortunes. Pour les patrimoines de moins d'1 million 200 000 euros, le gain sera de 3 000 euros. Mais pour les très gros patrimoines supérieurs à 7 millions, l'économie sera de 45 000 euros, voire plus. L'impôt sur la fortune ne disparaît pas, mais il va rapporter près d'un milliard de moins à l'État l'année prochaine, soit une cure d'amaigrissement d'environ 25%.
Voilà, les impôts là qui sont tombés, les impôts locaux. J'ai encore de la chance cette année, j'ai payé des impôts sur le revenu.
Mais sinon, il y a les produits de défiscalisation qui sont assez avantageux. Hein. J'ai la liste dans mon sac, si tu veux.
Les produits de défiscalisation, bah ouais, mais avec 1002 par mois, je sais pas comment je vais faire.
Il va bientôt y avoir le 13e mois.
Il n'y a pas de 13e mois chez Renault. Renault est une des deux seules entreprises cotées au CAC 40. Je crois qu'il y a Renault et Air Liquide, je crois qu'ils ne reversent pas de 13e mois leurs salariés.
Je vois qu'on les sauvé quand même.
Sauvé ?
Bah, à terre, t'as le journal qui nous dit que Nicolas Sarkozy impose un sommet sur la finance mondiale. Avec ça, ça devrait aller, non ?
En tout cas, chez nous, concrètement, il nous a rien proposé, quoi. En 2012, il nous dit qu'on va de nouveau avoir du boulot et qu'il va faire tout son possible pour qu'il y ait des embauches chez nous en 2012. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants quand je veux pas leur donner... Alors acheter un jouet qui est trop cher, il a dit ouais, on verra ça en 2012. Quoi. Et puis entre nous, ça, Sarkozy, j'espère bien qu'il sera plus là en 2012 non plus. Quoi.
Parce que Sarkozy vous a dit que en 2012 vous aurez du travail. Bon, d'ici à 2012 c'est incertain, mais en 2012 il va y avoir une embellie sur le marché de l'automobile.
Ouais, il nous a promis du travail pour 2012. Donc ceux qui ont des crédits baraques, des crédits bagnoles, c'est maintenant qu'il faut les payer. Quoi.
Ah, j'ai retrouvé le papier là dans mon sac. Réduisez vos impôts. Il y a deux solutions. C'est le fonds de placement dans l'innovation ou le fonds d'investissement de proximité. Alors, tout ça a été amélioré avec le paquet fiscal. C'est pour réduire ton impôt sur la fortune. Avec le paquet fiscal, ça a été vachement amélioré.
Alors, le paquet fiscal, c'est quoi? C'est le truc qui...
C'est le bouclier fiscal. Ah, mais alors vous, pour réduire vos impôts, par exemple, est-ce que vous faites bien appel à une société de gestion de patrimoine?
Je sais pas, ça a un coût, une société de gestion du patrimoine. Donc,
Tout a un coût dans la vie, mais il faut savoir investir aussi.
Bah ouais, mais là je regardais, là j'ai mis 15 euros d'essence ce matin. Je mettrai peut-être 15 euros la semaine prochaine. Je peux pas aller payer un machin pour réduire mes impôts. Alors, effectivement, j'en paye. Mais bon, à quelque part, je suis content d'en payer. Hein. Ça fait des écoles, ça fait l'entretien des routes, ça fait les hôpitaux, même si l'hôpital va mal. Les pauvres 700 euros que j'ai filés d'impôts, ça m'a fait mal de les sortir. Mais bon, ça a une utilité quelque part. Quoi.
Donc là, on arrive devant l'usine en Renault à Sandouville, à côté du Havre. Enfin, il y a plusieurs des sous-traitants, ça. Inergie, Inoplast, c'est les sous-traitants de Renault.
Ouais, directement. À côté, il y a Forestia là, qui nous livre des sièges à flux tendu. C'est-à-dire, eux, ils fabriquent le siège. Ça arrive par tunnel. Là, ça arrive directement sur les chaînes. Donc,
l'usine Renault est juste à côté de Forestia. Et effectivement, ouais, on voit un tunnel entre les deux usines. C'est impressionnant, ça.
Nous, quand on bosse, eux, ils bossent. Si on bosse pas, eux, ils avaient pas mal d'intérimaires. En plus, ils ont pas les avantages, enfin, les acquis sociaux. Il nous reste encore chez Renault. Donc eux, la crise qu'on subit, là, eux, pour eux, c'est cash. Quoi. C'est, on va se garer par là. Là, avant, les parkings, normalement, ils sont pleins. Quoi.
Et là, il est plus qu'à moitié vide.
Bah, là, il est plus qu'à moitié vide. Donc là, on va travailler que le matin. Et puis cet après-midi, tout le parking sera vide. Quoi. Donc,
parce qu'il y a chômage technique cet après-midi.
Ouais, il y a chômage technique pour... Pour ceux qui bossent sur la Laguna cet après-midi, eux, ils vont pas travailler, ils travailleront que la semaine prochaine du matin. Donc là, en fait, l'usine, elle tourne quasiment que du matin depuis début septembre. Quoi.
Je l'ai dit. Dentiste à soleur semblait accumuler sans risque le peu que lui laissait le fisc, ses épouses et ses assureurs, le fruit d'une vie sans saveur, d'une pauvre vie morne et sans gloire. Toute une vie de labeur pour les épinards, mais la banque a vendu ses sous pour s'offrir des calembres d'aile. Ben ça c'est pas de chance, que voulez-vous? Et sa banquière a des migraines. À Thun, Marc Schmitt était fleuriste, il engraissait calme et sans hargne une très jolie caisse d'épargne. Mais sa vie était un peu triste, car il n'aimait pas trop les fleurs, il préférait bien les dollars. Mais n'avait pas peur du labeur, de la peur pour les épinards. Et la banque a vendu ses sous pour s'offrir un petit scandale. Et ben ça c'est pas de chance, que voulez-vous? Et son banquier s'est fait la malle. Les prix Papua, Soleil, à tout, on fait un gros cafard. Certains sombrent dans le pinard, la Suisse entière a un peu peur. Une vie de labeur pour du beurre, et plus rien pour les épinards. La fille du banquier fait son beurre, et son père est un salopard. La fille du banquier fait son beurre, et le banquier est un connard.
La beurre et les épinards, là on va du côté du beurre dans les épinards et même du côté du beurre tout court au Forum de l'investissement. Un coup à Sandouville, un coup à Nice, à ce Forum de l'investissement. La crise d'un côté et la crise non, ici non, au contraire, il faut en profiter, profitons-en.
Le CAC 40 vaut actuellement 3450 points. Et ben, si j'achète à 3450 et je décide de vendre en fin de journée avec un objectif de 3470, et ben, je gagnerai 20 points d'indice sur un CFD CAC, c'est-à-dire 20 euros. Donc si j'ai acheté 10 CFD, ben, ça fera 20 points fois 10 euros, c'est-à-dire 200 euros.
Là, sous le bras, vous avez pris une revue qui s'appelle Investor.
Oui.
Ça fait un peu Terminator.
Oui. C'est une société que je ne connais pas, que je viens de découvrir.
Si on, ça veut dire qu'on a la possibilité d'être un vainqueur sur les marchés financiers.
Oui, c'est le marketing des sociétés de courtage, d'essayer de se présenter comme des latents, des gagnants.
Vous n'êtes pas Schwarzenegger.
Non. Je suis un investisseur paisible et tranquille.
Vous investissez en général sur
le marché français, marché action en direct. Je suis plutôt un investisseur sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Et là, alors, la crise financière, c'est quelque chose qui vous a échaudé?
Ah ben, c'est quelque chose qui m'a échaudé, et je considère que c'est une opportunité pour se renforcer sur le marché action, qui me paraît très sous-évalué.
Donc là, vous pariez à la hausse?
À la hausse, oui. Mais je pense que c'est quand tout va mal qu'il faut se placer sur les actions. Hein. Quand on parlera de la bourse avec du recul, en se disant, regardez, les chiffres sont excellents, et c'est peut-être un petit peu trop tard pour se replacer.
Cette crise sur les marchés financiers, ça a affecté votre niveau de vie? Vous partez plus en vacances?
Non, pas du tout. Parce que bon, on dit que quand on place son argent en action, c'est de l'argent dont on ne doit en principe pas avoir besoin avant plusieurs années. C'est un horizon, on va dire 4-7 ans, l'investissement en action.
Donc il n'y a pas de souci à se faire pour vous quand même dans l'immédiat, quoi? Sur le logement, sur la retraite
Non.
Vous savez, la crise, elle touche pas tout le monde, hein, malgré tout. Hein. Nous, on n'a pas de clients qui se trouvent, qui ont perdu leur boulot. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est vraiment de se dire, profitons de la crise. Profitons de la crise. Profitons de la crise. Profitons de la crise.
Ah ! Je vais les triper.
Là, on rentre dans les locaux. Syndicaux de Renault Sandouville, CGC, CFDT, et la bannière rouge de la CGT.
Tu veux un café?
Moi, je viens. Donc là, on se trouve dans le local syndical, dans une petite pièce. Vous êtes en train de manger vos sandwichs. Comment ça s'est traduit pour vous, le chômage technique chez Renault?
Pour mon cas personnel, c'est très très dur. Parce que moi, en plus, je suis marié, j'ai deux enfants, et ma femme travaille pas.
Vous avez le sentiment de vous priver sur quelque chose, déjà?
Carrément. Je prive surtout mes enfants, que moi je me prive, c'est pas trop grave, quoi. Parce que j'ai souvent fait, mais mes enfants, pardon, il y aura des questions que j'ai prives, quoi. Sur, par exemple, le cinéma, le petit restaurant, enfin, les petites choses de la vie, quoi. Ça fait, déjà presque un an qu'il n'y en a plus, déjà. Moi, j'ai ma fille qui a son anniversaire, il n'y en a pas, quoi. Ça, c'est clair. On pense à manger avant de faire des petits cadeaux, quoi.
Y a pas de petits cadeaux?
Non, il n'y en aura pas. Je suis déjà découvert au niveau de ma banque, je vais pas pouvoir... Il y a tout qui tombe, il y a les crédits, il y a le loyer, là il y a eu les impôts locaux, il y a tout quoi en fait.
Donc vous, le moral est pas bon?
Non, pas du tout, non. Pas du tout. Que ce soit à l'entreprise comme à la maison quoi.
Vous n'arrivez pas à le garder le moral parce que les actionnaires que j'ai vus, bon, ils ont pris un petit coup dans l'aile, mais ils arrivent quand même à garder le moral.
Bien sûr, les actionnaires ils seront toujours mieux que nous. Nous demain on perd 300 euros, c'est énorme. Ils vont perdre, ils perdent même plus que ça et ils se rendent même pas compte. Donc voilà quoi. Moi, je suis déjà à la fin du mois. Là, on est le 7. Ouais, bah demain, j'y suis, ça y est. J'ai payé mes factures, j'ai fait un petit peu de course et donc faut que je tienne jusqu'à la fin du mois.
T'es à zéro là?
Moins. Je suis à moins même. Je suis pas à zéro, je suis à moins parce que j'ai fait mes courses. J'étais à zéro en payant mes factures, comme c'est le principal pour l'instant pour éviter d'avoir des problèmes. Donc j'ai payé mes factures et puis voilà, j'ai acheté un petit peu de course et là, je suis à moins.
Et voilà, ça c'est Sandouville, vous avez compris. Retournons au forum de l'investissement où on ne craint pas la crise.
On est sur le stand, c'est quoi le nom de votre boîte?
Intergestion Conseil et Finance.
Mais quand on dit forum de l'investissement, on s'attend à voir surtout les banques, la BNP, la Société Générale, les caisses d'épargne. On s'attend à voir les grands assureurs. Et finalement, il y a des entreprises que moi, je connaissais pas, comme vous, comme un truc d'achat d'or. Mais il n'y a pas les grands noms de la finance, sont complètement absents ici. C'est parce que c'est un petit salon qui compte pas du tout.
Alors, je pense surtout que tous les grands établissements ont fui la crise. Ils ont peur. Parce que l'année dernière, ils étaient présents, il y a 2 ans, ils étaient présents, il y a 3 ans, ils étaient présents. Et cette année, c'est bizarre de voir des grands banquiers ou des grands assureurs qui sont totalement absents.
Vous faites donc du conseil aux particuliers. Vous avez vu les particuliers qui se sont ramassés des gamelles et qui sont venus vous dire, moi, je vais devoir revendre ma maison, ma voiture.
Oui, il y en a un qui voulait vendre sa Ferrari. Ah, je rigole. C'est qu'une crise de plus, c'est une crise momentanée. Celle-là est peut-être un peu plus importante parce qu'elle se conjugue avec une récession. Mais j'ai horizon 12-18 mois, on sortira de la crise. Et avec des rentabilités très très fortes pour les gens qui auront le courage de partir sur des produits actions.
Donc la crise financière, pour l'instant, elle fait pas perdre aux rentiers ou aux actionnaires leur retraite. Elle fait pas perdre... leur maison, leur voiture, elle fait même pas annuler leurs vacances.
Non, je dirais que la baisse, elle est de 25 à 30% sur l'épargne, mais il y a eu tellement de gains précédemment qu'il faut relativiser et voir ça sur du long terme.
Vous dites aux rentiers, aux actionnaires, vous plaignez pas trop, regardez sur le long terme, vous avez déjà gagné, si vous gardez ça pendant encore quelques années, bon, les larmes auront le temps de sécher et le sourire sera revenu, quoi.
Je pense que les larmes, elles vont sécher très vite. On achète toujours au son du canon et on vend au son du violon.
Ah ! Je vais les triper.
Dans le coin du Havre, il y a pas mal de boîtes confirmées. Hein. Là, il y a Millennium avec 300 emplois qui a fermé. On veut supprimer 800 emplois sur l'hôpital. Chez Renault, c'est 1150 emplois.
Et donc ça, c'est la crise.
Non, ça c'est pas la crise, ça c'est normal, ça c'est ce qui serait arrivé de toute façon. La crise elle a bon dos, hein, de toute façon, pour reverser 4,50 € de dividendes aux actionnaires, ça va être au détriment de l'emploi en France. Nous on tourne qu'à 30% de nos capacités ici dans l'usine. En Turquie, ils font des voitures, ils tournent à 130%. Il y a au moins 30% de production faite en Turquie qui pourrait revenir dans les usines ici et donner du travail aux salariés français, quoi.
Tu as quel âge, excuse-moi?
30 ans.
T'as 30 ans, j'ai 33 ans. J'ai le sentiment d'être né, d'avoir grandi et que le mot crise, il était toujours là. Là, on nous dit qu'elle s'aggrave, mais c'est comme si on avait grandi et qu'il y avait toujours eu la crise, finalement.
Moi, personnellement, j'ai toujours grandi avec ça, hein. Moi, mes parents sont ouvriers, mon père avait été maçon, enfin voilà, il a toujours... moi, j'ai toujours connu ça, quoi. Un coup, tu travailles, un coup, tu travailles pas. T'as plus ton travail, t'en retrouves, voilà, quoi. Moi, j'ai commencé à travailler depuis l'âge de 15 ans, comme peintre bâtiment. J'ai tenu 2 ans. Après j'ai pris le diplôme, pas de travail. J'ai changé, je me suis mis pour travailler dans la distribution, tout ce qui est commerce. Pareil, pas de travail. Après l'automobile, je me suis dit ça sera un petit peu plus sûr. Résultat, 8 ans après, voilà, pas de travail. Donc moi je fais quoi? Et mes enfants vont grandir avec la crise aussi alors. Sauf si nous on fait éclater la crise, c'est tout. Voilà, dans la rue, c'est tout. Il y a que ça à faire dans la rue. Sarko n'aime pas ça, mais nous on adore. Donc tant que lui n'aimera pas et nous on adore, on continuera.
Parce que là on parle de crise. J'ai vu là dans l'entrée, il y a une une de Libération, c'est la crise entre dans le dur. La crise sociale, c'est comme si qu'elle durait. On dit salaire qui stagne d'après l'INSEE depuis 25 ans, désindustrialisation massive. Donc ça c'est une crise sociale, mais finalement, tant que c'est une crise sociale, on a le sentiment que c'est pas important pour les médias, c'est pas trop important pour les politiques, ils parviennent très bien à vivre avec. En revanche, crise financière, chute du CAC 40, chute du Dow Jones, et là immédiatement, ça fait la une de tous les canards et tout ça.
Ils arrivent à débloquer en Europe 700 milliards d'euros, j'ai entendu, pour apaiser ou soulager la crise financière. On n'a même pas été foutu de trouver le pauvre 1 milliard qu'il fallait pour le RSA. Quand Martin Hirsch avait voulu sortir son RSA, il demandait 1 milliard. On aurait cru qu'il faisait l'aumône. On a dit, non, c'est pas possible, on va décaler ton truc. Et puis là, d'un coup, alors, 700 milliards qu'on débloque. Alors ça va aider les banques luxembourgeoises, Société Générale là, et la Caisse d'Épargne, les fameux traders, ils font un peu n'importe quoi avec... Et puis le travailleur honnête, l'ouvrier en chaîne, lui doit que subir et accepter en baissant la tête et en étant bien gentil. Ouais.
Voilà, en espérant que ce reportage contribuera donc à mettre un peu plus d'éthique au BDF, puisque c'était ça notre point de départ. Merci à tous, c'était un reportage de François Ruffin. Merci aux organisateurs du Forum de l'investissement, aux membres de Raymond Jane Patrimoine, à Christelle de Fourécia Sandouville et à Michael, Fabrice et Florian de Renault Sandouville. Rappelons le livre de François Ruffin, édité chez Fayard et intitulé « La guerre des classes » que ce reportage illustre assez bien. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, là aussi. Une tribune vous est ouverte. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Stéphane Poitvin, c'est Coyenne Guyenne et Raphaël Moutéal qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Il y a aussi un mail pour cette émission qui est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.